sommes le vendredi 31 mars, il est 8h.
Europe 1 matin.
Dimitri Pavlenko.
Et bon réveil à vous, un ancien président inculpé aux États-Unis, c'est une première dans l'histoire du pays. Donald Trump doit comparaître mardi, accusé d'avoir payé une de ses anciennes maîtresses pour qu'elle garde le silence. C'était avant son élection en 2016. Explication dans un instant. Mobilier urbain incendié, des affrontements avec la police, nouvelle manifestation émaillée de violence hier soir à Lyon et Paris. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 quand la France renoue avec ses pulsions révolutionnaires. Reportage dans ce journal, dans les universités où l'ultra-gauche radicalise des étudiants. Dans ce journal également, bientôt la fin de l'obligation vaccinale contre le Covid pour les soignants. Et puis le pape qui se remet doucement, pas sûr cependant qu'il soit sur pied pour la messe des Rameaux ce dimanche. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Donald Trump devant un tribunal mardi prochain. L'image promet d'être frappante et de faire le tour du monde. Cette nuit, un grand jury a voté l'inculpation de l'ancien président américain accusé d'avoir soudoyé juste avant son élection en 2016 une actrice de film porno avec qui il aurait eu une liaison. Anne Toulouse, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Un ex-président devant la justice américaine, c'est totalement inédit.
Oui, c'est un événement historique car c'est la première fois qu'un président des États-Unis est inculpé et cela pose beaucoup de questions. D'abord logistique, en tant que président, Donald Trump doit être sous la protection constante des services secrets. Ils devront donc l'accompagner pendant tout le rituel de l'arrestation qui consiste à prendre ses empreintes, peut-être sa photo. La question des menottes fait partie des négociations entre l'entourage du procureur et celui du président. Cela devrait être réglé d'ici mardi prochain lorsque Donald Trump se présentera au tribunal de son plein gré, à moins qu'il décide d'y être traîné par la police. Ce n'est que lorsqu'il comparaîtra devant le juge que l'on connaîtra le fond d'une affaire qui a commencé en 2016 par l'achat du silence d'une actrice porno prête à vendre le récit de ses ébats avec Donald Trump. Y a-t-il eu davantage qu'un faux en écriture pour camoufler le paiement ? Donald Trump plaidera non coupable et devrait repartir libre entre ses avocats jusqu'au procès. Il souhaite vraisemblablement la présence des caméras pendant toute la procédure. Cela fait partie de la pression qu'il fait monter à la fois sur le monde politique et sur ses supporters.
Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Donald Trump, qui espérait briguer un nouveau mandat en 2024, dénonce une chasse aux sorcières. Sur Twitter, son fils Eric Trump fustige un acte opportuniste visant un opposant politique en pleine campagne électorale. Au moins 7 interpellations hier soir après des rassemblements dans plusieurs grandes villes contre la répression policière à Sainte-Soline samedi dernier. À Lyon et à Paris notamment, ces manifestations qui se tenaient à proximité des préfectures ont dégénéré. Mobilier urbain incendié, affrontement avec les forces de l'ordre. Ordre, violence, radicalité. Quand la France renoue avec ses pulsions révolutionnaires, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Un extrémisme qu'on observe dans la rue, à coups d'incendie, de vitrines brisées, de batailles avec les policiers, mais qui se traduit aussi dans les universités, blocages et occupations, parfois avec violence, à l'œuvre de jeunes ultras soutenus par les organisations politiques d'extrême gauche. Louise Salé, qui sont ces étudiants et comment fonctionnent-ils ?
Ils ne sont pas très nombreux mais prennent beaucoup de place. Le reste des opinions politiques peine à s'exprimer. Léa, récemment diplômée de Sciences Po Lille, décrit l'ambiance des assemblées générales, les AG lors des mobilisations.
La moitié des élèves voulaient continuer à bloquer l'école et l'autre moitié voulait accéder au bâtiment. Malgré les débats, les étudiants contestataires ont continué à bloquer l'école. Il n'y avait finalement pas de débat, de discussion possible. Ces AG, c'était les personnes qui pensaient comme eux, qui y allaient, qui avaient le droit de s'exprimer. Les opposants, ils étaient très vite taxés de fascistes, alors que les étudiants voulaient retourner en cours.
Les bloqueurs sont soutenus par la France Insoumise, le nouveau parti anticapitaliste ou encore le parti communiste, mais cherchent à s'en distinguer. Aucun logo ou drapeau ne font partie du paysage des blocages. Olivier Galland, sociologue au CNRS, l'a remarqué dans son enquête.
On a plus d'un jeune sur 5 qui sont révoltés contre la société, qui sont pour une action révolutionnaire, qui ne croient plus dans le vote. Il y a cette frange de la jeunesse qui est assez radicalisée tout en étant hors parti.
Avec le risque de voir naître des actions de plus en plus incontrôlables pour les organisations politique.
Louise Salé.
Europe 1 matin, il est 8h05.
L'obligation vaccinale des soignants contre le Covid, elle sera bientôt levée.
La Haute Autorité de Santé, qui avait mené une consultation début février, apprenait hier la fin de cette mesure. Avis partagé par le ministre de la Santé, François Braun, qui va déterminer avec les professionnels de santé les conditions du retour des non-vaccinés. Pour le directeur de l'hôpital d'Arpajon, Cédric Luziez, cette décision pourrait apporter de l'apaisement à l'hôpital.
Pour nous, c'était de l'ordre d'environ 30 de personnes dont la majorité d'entre eux ont choisi un autre métier pour plusieurs d'entre eux, enfin, j'en ai trois en tête notamment, ils souhaitaient reprendre une activité de soins. C'est évidemment des soignants qu'on va recontacter immédiatement. Ça reste marginal par rapport aux besoins, mais 4-5 personnes qui peuvent rejoindre l'hôpital, c'est aussi un petit peu de marge qui sera bienvenue. On maintiendra évidemment toute une pédagogie de la vaccination. Simplement, on va plus être dans un régime d'obligation, ce qui sera peut-être aussi plus facile à accepter collectivement.
Cédric Luziès, directeur de l'hôpital d'Arpajon, joint par Nina Droff.
Pour Allez, la page immobilier maintenant, une mesure qui pourrait faire baisser les prix sur le marché dès demain. L'audit énergétique sera obligatoire pour les passoires thermiques.
Oui, indispensable pour vendre votre appartement ou votre maison si sa performance énergétique est classée F ou G. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cet audit énergétique? Que va-t-il changer? C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1 avec Noah Moussa.
Tout d'abord, l'audit énergétique ne concerne que les maisons individuelles et les immeubles détenus par un seul propriétaire. Les copropriétés ne sont donc pas concernées. Désormais, lors de la mise en vente de votre bien, vous devrez présenter un document aux acquéreurs sur son état énergétique et ce, dès la première visite. Pour le moment, cela concerne uniquement les passoires thermiques classées F ou G. Ce document est indicatif sur les travaux à réaliser pour que le bien soit aux normes et leur coût potentiel. Changement d'une chaudière, remplacement des fenêtres, isolation des combles par exemple. Si l'objectif est bien d'apporter une information claire au futur acheteur, cela signifie surtout qu'il pourra négocier à la baisse le prix du logement convoité. Une inconnue, l'attitude des propriétaires prêts ou non à jouer le jeu.
Noah Moussa.
Le tuto de la rédaction d'Europe 1, la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. Prenons maintenant des nouvelles du pape, toujours hospitalisé pour une bronchite infectieuse. Son traitement antibiotique a déjà permis une amélioration de sa santé.
Et des médicaments et peut-être quelques prières à Saint Richer, le saint patron de la guérison des maladies respiratoires. À Rome, les catholiques égrènent leur chapelet pour une rémission rapide du pape. Reportage dans une église française de Rome avec le correspondant d'Europe 1, Antonino Gallofaro.
Quelques fidèles arrivent à Saint-Louis des Français dans le cœur de Rome. À 3 jours du début de la Semaine Sainte, leurs prières vont naturellement au pape hospitalisé, Inès et Jean-Baptiste.
On était à son audience et le fait de savoir qu'il était hospitalisé dans la foulée, ça nous a fait quelque chose. On espère qu'il se rétablira et on connaît son âge, donc on sait que bon, ça nous touche.
On vit avec le pape en ce moment cette difficulté. Enfin, on espère tous qu'il va se rétablir.
Ces fêtes de Pâques à Rome pourraient être particulières, elles pourraient être célébrées en l'absence du pape. Les fidèles sont pris de court, Jean-Baptiste, Inès et Daniel.
Pâques sans pape, c'est vrai que c'est difficile de vivre une semaine pascale peut-être sans lui.
On verra comment ça se passe. On espère que cette semaine particulière où beaucoup de chrétiens seront ensemble autour de la foi va lui permettre de guérir.
Je pense qu'il vit la semaine sainte à sa façon et là où il est et en lien avec tous les chrétiens du monde.
François ne sortira pas de l'hôpital avant quelques jours. Il ne pourra donc vraisemblablement pas célébrer la messe des Rameaux dimanche. Rome, Antonino Gallofaro. Europe 1.
Allez, on passe au sport et cette accusation de détournement de biens publics et de corruption au sein de la Fédération française de tennis.
Oui, plusieurs cadres de la FFT ont porté plainte. Le parquet national financier a ouvert une enquête. Invité d'Europe 1 hier soir, d'Europe 1 Sport hier soir, le président de la Fédération, Gilles Moreton, reste droit dans ses bottes. Écoutez.
Je me suis exprimé pour ceux qui veulent savoir, c'est donner les documents, une transparence totale. On va attendre de voir ce qui se passe, d'abord parce que le parquet a été saisi, voir ce que le parquet va décider. Puis derrière, bien évidemment, nous avons des réponses à toutes ces questions-là. Le seul objectif, au travers de ces différentes affaires, c'est porter préjudice. Et ce qui me gêne plus, ce n'est pas tellement pour moi personnellement, mais aujourd'hui, c'est le tennis. Et c'est tous les dirigeants français qui sont salis quand on m'attaque comme ça. C'est tous les dirigeants français.
Gilles Moreton, le président de la Fédération française de tennis, au micro de Jacques Vendroux et Céline Géraud hier soir dans Europe 1 Sport.
Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal.